Conférence privée par le père Philippe à Saint-Joseph le 15 octobre 1986.
plaisir le plus. Vous voyez, c'est ça qui caractérise les enfants bien aimés, c'est qu'ils comprennent la sensibilité profonde de leur mère. C'est qu'ils comprennent les désirs profonds de leur mère. La mère n'a eu besoin que de l'exprimer une fois. Ils ont tout de suite compris. Ça, c'est d'être un peu intentionné pour Marie, de comprendre qu'elle veut être plus proche de nous au moment même où nous voulons faire oraison, où nous voulons entrer dans l'intimité avec le cœur du Christ. Nous n'avons qu'un seul désir, c'est que notre cœur soit changé dans le cœur de Jésus. Transformation de l'eau en vin. Il faut durant ce mois d'octobre entrer très à fond dans ce désir de Marie et lui demander parce que personne d'entre nous arrive à faire pleinement ce qu'il devrait faire pendant le temps de l'oraison. Je suis sûr, nous sommes tous en dessous de ce que nous devrions faire. Parce que c'est l'activité la plus grande, la plus élevée. Peut-être qu'au point de vue philosophique, on est à peu près au point. Mais au point de vue de l'oraison, on ne l'est pas du tout. Chacun d'entre nous, je n'accuse personne, je m'accuse moi-même. On n'est pas au point. On est en dessous de ce qu'on devrait faire. Et en dessous des désirs de Marie. Ça, j'en suis sûr. Marie a des désirs beaucoup plus profonds sur chacun d'entre vous par rapport à ce mystère de l'oraison. Elle désire que vous y entriez avec une très grande soif, en sachant que ça vous est réservé et que vous devez recevoir ces trésors qui sont les trésors de la grâce les plus éminents. L'exercice du don de sagesse, l'exercice du don d'intelligence, c'est ces dons qui doivent s'exercer pleinement pendant ce temps consacré à l'oraison. Alors, soyons particulièrement attentifs à cela pendant ce mois d'octobre pour ne pas contrister notre mère. Et au contraire, lui permettre d'agir, mais pleinement, en toute liberté. Il faut lui dire cela, qu'elle puisse vraiment agir en toute liberté, parce que c'est le désir profond de notre cœur. Nous n'avons que ce désir-là, de la laisser tout prendre. Et puis, le désir vraiment de vivre de ce mystère. Parce que tant qu'il n'y a pas ce lien personnel, ce lien lumineux dans l'obscurité de la foi, ce lien brûlant dans la charité, notre vie ne peut pas être pleinement ce que Jésus attend de nous. C'est par l'oraison que notre vie devient de plus en plus consacrée à Jésus. Il faut en avoir la conviction intérieure pour vous, pour toute la communauté. Évidemment, on ne fait pas une oraison collective, c'est bien évident. Mais il faut que ça gagne. Quand il y a quelqu'un dans une communauté qui fait vraiment oraison, ça brûle les autres. Je ne sais pas trop comment, mais ça brûle les autres. Il suffirait qu'il y en ait 3-4 dans une communauté qui ont une ferveur très intense pour demander cette grâce d'oraison et la demander à Marie pour que tout de suite il y ait un élan nouveau. Alors il faut, pendant cette seconde partie de ce mois d'octobre, ce début de l'année scolaire, que nous ayons ces très grandes audaces dans ce mystère de l'oraison. Et je choisis aujourd'hui parce que justement, Les connaître, ça fait partie d'une ça, c'est le ciel. Je dis pas qu'après, c'est le purgatoire. Mais quand même, le noviciat, c'est le ciel. C'est pour ça qu'il faut avoir très grand désir au noviciat. Et c'est pour ça que les novices doivent toujours être pour les autres. Ses grâces très fortes d'intimité avec Dieu, elle tombe malade et doit ressortir pendant un an environ, au cours duquel elle reçoit beaucoup de grâces d'oraison. Elle lit aussi beaucoup et elle fait aussi de douloureuses expériences.
Alors, elle perd.
ma vertu. Et on a des grâces en raison. Et alors on croit que c'est arrivé parce qu'on a des grâces en raison. Et alors, voyez, on use mal des dons de Dieu. Alors que si on a un certain sens de l'oraison et des grâces en raison, on devrait rechercher avec encore beaucoup plus d'avidité l'exercice des vertus. L'exercice des vertus, c'est-à-dire faire pleinement notre devoir d'État. Le travail, c'est très bon. La charité fraternelle, vous savez bien, c'est ainsi. Si l'oraison est authentique, il y a une soif de charité fraternelle. Si l'oraison est authentique, on a une soif de miséricorde. Si l'oraison est authentique, on a une soif d'obéir, de mettre toute sa vie dans l'obéissance. Et puis, l'humilité. Alors, on comprend très bien que, normalement, il doit y avoir un lien entre les deux. Mais le lien n'est pas toujours net. Au couvent de l'incarnation, les religieuses avaient beaucoup de liberté. C'était un carmel à cette époque-là, avant la réforme de Sainte Thérèse. C'était pas comme les carmels d'aujourd'hui. Du moins, comme certains carmels d'aujourd'hui. On pourrait dire les mêmes remarques, vous voyez. Certains carmels d'aujourd'hui sont tombés un petit peu dans la même situation que les carmels que Sainte Thérèse a connus avant la réforme.
Les passe-temps d'une vie. ce que disait le père de Haut tout à l'heure. C'est quelquefois heureux de voir chez des saints des faiblesses qu'on trouve en nous. Ça nous donne du courage. Je n'ai pas encore 20 ans de relâchement, alors reprenez-vous vite, vite, vite. Et c'est vrai, il faut se reprendre vite. Parce qu'au bout de 20 ans de relâchement, on dirait, mais c'est fini. C'est ce que fait le démon, du reste. Alors il est dans le désespoir. Et c'est vrai qu'il y a toute cette partie dans la vie de Sainte Thérèse qui est c'est très mystérieux. Que Dieu ait permis à quelqu'un qui est appelé à une telle sainteté de perdre 20 ans, près de 20 ans, exactement 18 ans, année qui se passe à tomber et à se relever, mais à se relever mal, dit-elle, puisque je retombais encore. C'est pas nécessaire, ça. Ça, c'est tel qu'il dit. Parce qu'on peut très bien se relever bien et retomber encore. Faut pas dire parce qu'on retombe après qu'on s'est mal relevé. On voit très bien ce qu'elle veut dire. C'est pas tout à fait juste. Théologiquement parlant, on voit, c'est plutôt psychologique, ça. C'est elle qui s'accuse. Aller à l'oraison était pour elle un véritable tourment. C'est important de regarder. Mais très souvent, pendant plusieurs années, j'étais beaucoup plus préoccupée du désir de voir s'achever l'heure d'oraison et d'entendre le coup de l'horloge. Hein, ça sonne bien. Juste à la fin de l'oraison, l'Église, elle est faite pour ça. Que d'autres pensées vraiment utiles. Souvent aussi, il m'eût été moins dur de subir les pénitences les plus rigoureuses que de me recueillir pour faire oraison. Oui, je l'affirme, j'avais à soutenir un tourment inouï contre le démon ou ma mauvaise nature. Qui voulait m'empêcher de me rendre à l'oraison. Une telle tristesse s'emparait de moi en entrant à l'oratoire que pour me surmonter, j'avais besoin de tout mon courage, qui, dit-on, n'est pas petit. C'est une femme d'énergie, n'est-ce pas ? Et elle le sait, c'est pas plus mal. On a vu en effet que Dieu me l'a donné bien supérieur à celui d'une femme. Quoi, j'en ai mal, tu sais. Donc, elle va montrer. Vous savez, c'est Sainte Thérèse quand elle dit qu'elle veut que ses religieuses soient des femmes fortes et des femmes barbues. Alors, on voit très bien ce qu'elle veut dire ici. Donc, elle a de la volonté. Et avoir de la volonté, c'est nécessaire pour faire oraison. C'est nécessaire. Parce que Dieu veut qu'on coopère. Faut pas. La passivité psychologique et la passivité divine, ça c'est un des pièges du démon. La passivité psychologique n'est pas bonne pour progresser dans l'horizon. Et ça peut être le jeu du démon. On croit que c'est le père de dit ça admirablement quand il dit qu'il faut toujours distinguer, bien distinguer, le ronron du chat auprès du feu et le vol de l'aigle. Le ronron du chat auprès du feu, c'est la passivité psychologique. On a un tempérament lymphatique. Alors, on se laisse aller. C'est pas l'oraison du tout. Se laisser aller, c'est pas du tout être dans les mains de Dieu. Se laisser aller, c'est encore soi. Tandis que l'oraison, c'est être porté par l'Esprit Saint. C'est pas la même chose, hein. Ne confondons pas. Vous voyez, comme il faut pas confondre abandon psychologique et abandon divin.
l'abandon divin, c'est au contraire une détermination profonde de ne vouloir que ce que Dieu veut, de ne vouloir que la volonté du Père. C'est très très différent, ça. Oui, faut pas confondre la petitesse psychologique, le retour au berceau, le complexe océanique, comme disent les psychanalystes, et puis la petitesse évangélique. La petitesse évangélique, c'est pas du tout la petitesse psychologique. La petitesse évangélique, c'est cette volonté d'amour de laisser toujours passer devant le Jésus, la volonté de Dieu. Alors, faut être très attentif à ça. Donc, la passivité psychologique, on sait très bien ce que c'est. La passivité psychologique, qui est liée, vous voyez, à un aspect imaginaire. C'est un ronron intérieur. Ça, c'est la passivité psychologique. Tandis que la passivité divine, ah, c'est l'Esprit Saint qui nous saisit et qui nous prend. Alors, c'est vrai, c'est une passivité qui va beaucoup plus loin que l'autre. Elle est toute différente, parce qu'elle est limpide. Elle est limpide. Elle est se remettre entre les mains de l'Esprit Saint. Oui, je l'affirme, j'avais à soutenir un tourment inouï contre le démon ou ma mauvaise nature qui voulait m'empêcher de me rendre à l'oraison. Une telle tristesse s'emparait de moi. En entrant à l'oratoire, que pour me surmonter, j'avais besoin de tout mon courage. Vous voyez, elle n'est pas abandonnée psychologiquement. De tout mon courage, donc de toute sa volonté. Qui dit-on n'est pas petite. On a vu en effet que Dieu me l'a donnée bien supérieure à celui d'une femme. Il y a beaucoup de femmes qui sont très courageuses. Enfin, le Seigneur venait à mon secours. Après m'être ainsi surmonté, je goûtais plus de repos et de consolation que dans quelques autres circonstances où j'étais stimulé par le désir de le prier. Donc elle distingue bien, vous voyez, ce dégoût qui vient du démon. Le démon n'aime pas qu'on fasse en raison. D'un point de vue. Parce qu'à ce moment-là, vous l'échappez complètement. Le démon n'aime pas. Donc le démon fait tout ce qu'il peut pour nous détourner de l'oraison. Et s'il pouvait nous empêcher de faire oraison, sous mille prétextes, dans la vie apostolique, c'est quelquefois la vie apostolique. Je fais beaucoup de bien aux âmes, donc c'est bien supérieur que de faire oraison. Ou moi, je n'ai pas de grâce particulière, je ne suis pas doué pour ça. Personne n'est doué pour l'oraison. Personne. Il ne faut pas croire ce que disait une fois un bon père Carme. Oh, vous allez dans ce carmel-là, oh, vous verrez telle novice. Elle est contemplative. Je dis, ah, tiens, oui. Mais oui, elle est sanguine. Elle était très contemplative. Parce qu'elle avait un tempérament sanguin. Donc elle était comme Saint-Jean. On peut ressembler à Saint-Jean par le tempérament sanguin sans ressembler à Saint-Jean par le point de vue de la contemplation. C'est pas une question de tempérament, la contemplation et l'oraison. C'est une question de grâce de Dieu. Alors il faut du courage. Ça c'est sûr. Et si Sainte Thérèse n'avait pas eu ce courage et cette ténacité, elle serait peut-être tombée, hein, dans un gouffre. Elle n'aurait pas eu le courage. certains moments, nous avons besoin de la méditation pour tenir le coup. De fait, c'est une grâce reçue devant un buste de Lecce Homo qui transforma sa vie. Mon âme fatiguée d'une telle vie soupirait après le repos, mais ses tristes habitudes ne lui permettaient pas d'en jouir. Or voici ce qui m'arriva. Entrant un jour dans l'oratoire, je vois une statue que l'on s'était procurée pour une fête qui devait se célébrer dans le couvent et que, en attendant, on avait placée là. Elle représentait le Christ tout couvert de plaies. La dévotion qu'elle inspirait fut si grande qu'en la voyant, je me sentis complètement bouleversé, tant elle rappelait ce que le Seigneur avait enduré pour nous. Une telle douleur s'empara de moi en considérant combien j'avais mal répondu à l'amour. Que supposer de telles plaies que mon cœur semblait se briser? Je me prosternai aux pieds de mon Sauveur en répandant un torrent de larmes et le suppliai de me donner enfin la force de ne plus l'offenser. Vous voyez, c'est aussi très intéressant dans une sainte si attentive aux signes, le petit signe, le signe providentiel de cette statue qui est là. Et le Seigneur se sert de ça pour la réveiller et lui mettre. Je dis ça, c'est parce que c'est important pour nous. N'intellectualisons pas nos oraisons. C'est un danger quand on fait trop d'études philosophiques et théologiques. Il faut faire les études philosophiques et théologiques. Mais il faut. Parce que nos études sont des études intellectuelles qui veulent aller loin. Il faut que l'oraison soit d'autant plus affective et aimante. Il y a une petite tentation de temps en temps de continuer la méditation de l'exercice du cours. Dans les cours médités, les cours, c'est une méditation merveilleuse. Et les carmes de Salamanque, qui sont à l'école de Sainte-Thérèse, n'hésite pas de dire que c'est la plus merveilleuse des méditations d'assister à un cours spéculatif, même métaphysique, pas nécessairement uniquement théologique. C'est très curieux ça, et c'est très très beau et c'est très grand. C'est une méditation merveilleuse, ça devrait nous préparer immédiatement à l'oraison. Et quelquefois même, pendant le cours, le Seigneur nous donne des grâces d'oraison. C'est plus difficile quand on le fait, et quand on l'écoute c'est facile. Parce qu'on est justement dans une attitude plus passive. C'est plus contemplatif, dirait Aristote, d'écouter un cours que de le faire. Si on se met dans l'attitude d'entrer dans la vérité. raison comme ce qui est essentiel à la vie. La réforme pour nous, vous voyez bien, c'est à la fois revenir à une pureté plus grande, philosophique, théologique, et un désir plus grand d'horizon. Si on fait ça, on remonte, vous voyez, à la source. Puisque l'horizon, la source de l'horizon, c'est le cœur de Jésus. Vous savez bien comment Sainte Thérèse nous dit que si on quitte l'humanité sainte de Jésus, pendant l'horizon, on perd du temps. C'est ça, voyez, faussement spéculer. C'est cela, faire que l'horizon n'a plus son caractère suffisamment aimant. Il y a les deux dangers. Il y a le danger de confondre la passivité divine avec la passivité psychologique. Et l'autre défaut, c'est d'intellectualiser trop l'horizon. On n'intellectualisera jamais trop la philosophie. Je ne dis pas cérébraliser, intellectualiser. Parce que c'est dans la philosophie où l'intelligence va jusqu'au bout de ses exigences. L'intelligence séparée. La métaphysique, la théologie est moins intellectualisable que la philosophie. Ça, c'est sûr. Parce que tout l'apport de la foi. Mais l'horizon doit être le lieu de l'épanouissement du cœur divin. Pas de la sensibilité humaine, mais du cœur divin, de notre amour à l'égard de Jésus, notre amour à l'égard du Père, à l'égard de l'Esprit-Saint. Alors c'est là où il faut essayer de comprendre comment Sainte Thérèse va nous rappeler les 4 degrés d'horizon. Ces 4 degrés qu'elle-même va décrire dans sa vie. L'horizon, être le serviteur de l'amour. C'est ça l'horizon. Être le serviteur de l'amour. En suivant celui qui nous a tant aimés. Voyez, suivre l'agneau partout où il va. C'est se mettre dans ce climat de l'horizon. Premier degré de l'horizon. Suivre l'agneau partout où il va. Or, on ne peut suivre l'agneau qu'en l'aimant. Sainte Thérèse prend l'image des 4 manières d'arroser un jardin. Ça, c'est très joli. Hein. Parce que c'est un langage symbolique que tout le monde peut comprendre. Alors, évidemment, vous comprenez que c'est symbolique. Hein. Parce qu'autrement, si il y avait les 4 manières, vous arriviez à l'horizon avec un arrosoir, n'est-ce pas ? Ce ne serait pas tout à fait ce qu'il faut, n'est-ce pas ? Il me semble qu'il y a 4 manières d'arroser un jardin. D'abord, en tirant de l'eau d'un puits, n'oubliez pas que c'est quelquefois très sec. Hein. Les paysages d'Espagne, surtout à cet endroit-là, la Castille. D'abord, en tirant de l'eau d'un puits à force de bras, ce qui exige une grande fatigue de notre part. Ou bien, en tournant à l'aide d'une manivelle, une noria garnie de godets, comme je l'ai fait moi-même quelquefois, avec moins de travail, on puise une plus grande quantité d'eau. Ou bien, en amenant l'eau soit d'une rivière, soit d'un ruisseau. La terre est alors mieux arrosée et mieux détrempée. Il n'est pas nécessaire d'arroser aussi fréquemment et le jardinier a beaucoup moins de travail. Enfin, il y a la pluie abondante. C'est le Seigneur qui arrose alors sans aucun travail de notre part. Et ce mode d'arrosage est sans comparaison supérieure à tout ce dont nous avons parlé.
C'est pas drôle.
à Jésus. Que vous savez, dans la foi, qu'il est plus présent à vous que vous ne êtes vous-même présent à vous-même. Que le Créateur est plus présent à nous que nous sommes présents à nous-mêmes. Veuillez prendre conscience dans la foi, dans une réflexion amoureuse, de cette présence du Créateur et s'habituer à redécouvrir cette présence en adorant. Ça, c'est le point de départ. Mais tout de suite, vous êtes au-delà de la méditation. La méditation, c'est descriptif. Tandis que là, on remonte à la source. Et on veut découvrir ce jaillissement premier de l'amour de Dieu sur nous. On est aimé de Dieu. Et on découvre cet amour actuel. Et c'est cet amour actuel.